Et sur Canal M, c'est l'heure du national. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille en votre compagnie et aujourd'hui à cette émission, le National qui, je vous le rappelle, fait un petit tour d'horizon de tout ce qui s'écrit dans la francophonie canadienne. Eh bien, nous parlerons d'une exposition qui est consacrée à Mandela. Il sera beaucoup question de la Coupe du Monde de soccer qui a commencé il y a maintenant 2 jours et on parlera de la future Coupe du Monde qui se déroulera notamment ici au Canada. Quoi d'autre ? En dehors du sport, on parlera d'une politique provinciale pour les aînés qui s'installent assez mal, ma foi, en Saskatchewan. Nous irons à Shediac pour la 15e édition du Relais pour la vie. Et il sera question aussi de géogastronomie au Yukon. C'est dans sa cellule au fond d'une prison réservée surtout aux dissidents noirs que Nelson Mandela a appris à dialoguer avec ses oppresseurs blancs. Dans une exposition consacrée aux héros sud-africains, le Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg nous montre à quel point ces 27 années d'emprisonnement l'ont mené vers la réconciliation. C'est un texte de Laurence Martin d'ICI Radio Canada, Manitoba. Je me suis trompée de ligne, mais ça fait absolument rien. C'est vraiment un texte de Laurence Martin. Il faut voir l'immense mur couvert de pancartes racistes à l'entrée de l'exposition pour comprendre à quel point la guerre civile en Afrique du Sud a été évitée de peu au début des années 90. À quel point la revanche des Noirs, nourrie par des décennies d'injustice, aurait pu être violente. Toilettes réservées aux femmes blanches, hôpitaux pour les gens de couleur, et puis l'inscription « Européen seulement » sur un banc public. Comme dans le sud des États-Unis, le régime de l'apartheid, instauré en 1948, avait fait du développement séparé entre les Blancs et les Noirs son idéal, sa raison d'être. L'apartheid est un régime qui a imposé l'oppression raciale sur tous les aspects de la vie en Afrique du Sud. Si on était blanc, on vivait une vie très privilégiée. La population noire était transformée en main-d'œuvre bon marché. Pour mettre fin à l'oppression raciale, Nelson Mandela s'engage en politique dès les années 1940. Lorsque son parti, le Congrès national africain, l'ANC, est banni en 1960, il entre alors dans la clandestinité. Mandela passe 17 mois à voyager à travers l'Afrique, jusqu'à Londres même, avec un faux passeport, explique le commissaire de l'exposition Isabelle Masson. Il cherche du support pour la lutte armée. Le musée présente d'ailleurs une des premières entrevues télévisées que Mandela a données à un journaliste britannique à 2 heures, en pleine nuit, clandestinité oblige. La cellule de prison de Mandela à Robben Island a été reproduite dans l'exposition. Ses dimensions, 2,4 mètres sur 2 mètres, 2,06 mètres précisément. Très vite, en 1962, Mandela est arrêté puis emprisonné. Il passe 27 années derrière les barreaux, dont 18 à Robben Island, une île près du Cap. La cellule de Mandela a donc été reproduite dans ses dimensions exactes au Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg. Les visiteurs peuvent y entrer et observer les objets qui se trouvaient à l'intérieur. Un tapis en guise de matelas, une table, une assiette et une cuillère déposées sur une toute petite table et puis une poubelle qui servait à Mandela de toilette et qu'il devait nettoyer chaque jour. Si ces années d'emprisonnement ont été très dures, elles ont été formatrices pour Mandela, croit Christopher Till, directeur du musée de l'apartheid à Johannesburg, qui a contribué à l'exposition. En prison, Mandela a réussi à gagner le respect de ses gardiens, qui étaient tous blancs. Il a discuté avec eux, il voulait les comprendre. En prison, durant ces 27 années qu'il a découvert, c'est là qu'il a découvert l'importance de négocier avec ses ennemis, ajoute M. Till. Et quand il est sorti de prison, Mandela ne voulait pas d'une guerre civile. Il voulait la réconciliation entre les Blancs et les Noirs. La lutte contre l'oppression raciale n'a pas été que l'affaire de Mandela. Et l'exposition présente aussi tout le mouvement qui a mené à la fin de l'apartheid. Au Canada, dans les années 80, des milliers de personnes ont manifesté et exercé des pressions sur le gouvernement de Brian Mulroney pour qu'il impose, entre autres, des sanctions commerciales contre l'Afrique du Sud. Quand les progressistes conservateurs arrivent au pouvoir en 1984, ils sont néophytes en politique extérieure, raconte Aziz Fall, ancien membre du réseau québécois contre l'apartheid. L'occasion est parfaite pour les influencer. Le gouvernement canadien finit par endosser des sanctions partielles et joue du même coup un rôle de leader sur la scène internationale. C'est une situation difficile parce que Mulroney s'opposait dans le Commonwealth à Margaret Thatcher qui ne voulait pas aller sur le chemin des sanctions officielles. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de Mandela s'il n'y a aucun doute que la cause de Mandela a triomphé? Avec sa libération en 1990 et surtout l'organisation des premières élections démocratiques en 1994, aujourd'hui, son héritage est remis en question, explique la commissaire Isabelle Masson. Pour les nouvelles générations, il y a le questionnement. Mais qu'est-ce qui a tant changé? C'est que l'apartheid a créé des inégalités socio-économiques profondes, précise-t-elle. L'entrée de l'exposition donne le ton. Ce banc vert était réservé aux Européens, seulement donc aux personnes de race blanche. Parmi les non-Européens, on comptait les Noirs, les Colored, autrement dit les gens de race mélangée, et les Asiatiques. Christopher Till, directeur du musée de l'apartheid, reconnaît qu'avec la montée du racisme en Afrique du Sud, le message de réconciliation de Mandela pourrait s'effondrer. Et pourtant, plus que jamais, croit-il, le monde aurait besoin de ce leader d'exception. Je me demande, dit la journaliste, ce que Mandela dirait de notre époque, s'il était encore en vie. Certainement, il aurait l'autorité morale, la stature, l'expérience politique et surtout le courage pour dire « ça n'a aucun sens, on doit aller au-delà de nos différences ».
Pelio chocolatetto tu me choita chito same ma cosa e tu e come la settona hoa seme vale io tu casea io so tu io catica magari bulacchini utopo e aiule e milala.
C'est magnifique, hein, ces chants d'Afrique du Sud, pour vous rappeler que l'exposition Mandela, la prison change une vie, est présentée au Musée canadien en ce moment même, pour le Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg. Et la chanson qu'on entendait s'appelait Baba Yetou. Elle était interprétée par Christopher Tin. Allez, on quitte le Manitoba, on quitte l'Afrique du Sud et on s'en va à l'île du Prince-Édouard. Je voudrais vous présenter un documentaire et la bande-annonce d'ailleurs qui l'accompagne. Mais avant, en petit préambule, celui de cet article écrit par Luca Pileri et que j'ai trouvé dans le Franco de Calgary, où il nous dit ceci: l'enseignement peut-il sauver le français? Il nous parle du choix de Théo. Le choix de Théo, c'est un documentaire coproduit par le professeur Thomas Covin et réalisé par M.I.K.L. Espinas. Pardon, c'est écrit comme ça, je n'en sais pas plus. Et ce que je sais, c'est que ça a été diffusé le samedi 26 mai dernier au C-Space par l'Alliance française de Calgary. Et c'est une œuvre qui met en lumière le renouveau du français en Louisiane, grâce au succès de l'immersion. Suite à sa diffusion au Canada et aux États-Unis, les conversations s'animent et la communauté échange afin d'assurer un bel avenir à la langue française en Amérique du Nord. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce reportage, de ce documentaire qui s'intitule « Le choix de Théo ».
Pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas parler français ?
On a oublié.
Les années de discrimination.
If you're going to come here, you should learn to speak English and forget your other language. It seems an extreme thing to do in retrospect, to whip these kids, to make them kneel on kernels of corn or rice in the corner.
En 68, le Godofil, la nouvelle idée, c'est de sauver le français par l'école, par l'éducation.
C'est un changement énorme qui s'est fait en l'espace de 20 ou 30 ans.
C'était non seulement des Français, c'était des Belges, c'était des Haïtiens, c'était des Québécois.
C'est une rencontre entre le local et l'international.
Comment tu t'appelles ?
Isabella.
Et les Espagnols sont arrivés, puis ils ont trouvé les choses.
In 2016, the Louisiana public school system was rated as the worst in the country.
On n'enseigne que ce que l'on teste et on ne teste que ce qu'on en enseigne.
These students are residing in the United States, they're residing in Louisiana. They should be measured in the same way that other students are measured.
Il y a 30 ans, on aurait dit ça à quelqu'un. On aurait dit ça à Freiné, mon Dieu.
Parce que dans mon cœur, il vit une passion comme un feu. De parler français.
Tout est politique. Ceux qui vous disent que la politique n'est pas trop importante se trompent lourdement.
What you would like to see happen is occasionally have a superintendent says we're going to take the worst school in our parish and we're going to figure out a way to change it.
Ça, c'est notre nouvelle réalité. C'est un peu plus francophone.
Je le dis chaque fois à mes élèves, je dis, mais écoutez, vous parlez l'anglais, vous parlez le français, vous représentez deux personnes. C'est le monde qui s'ouvre à vous.
Je dis, il faut traverser la barrière et apprendre les autres manières de parler.
Écoutez le son des Tishawi, après je vois un meilleur, un lugar où est Zambie.
Voilà la bande-annonce de ce documentaire, Le choix de Théo. Théo, c'est ce Louisianais qui a décidé à l'âge de 14 ans d'apprendre le français. Après des études et plusieurs séjours linguistiques en France et au Canada, il est devenu lui-même professeur en immersion. Théo est symbolique, car il résume bien le combat de ces jeunes en Louisiane qui veulent préserver la langue, indique Thomas Covin, professeur d'histoire à l'Université d'État du Colorado, anciennement à l'Université de Louisiane à Lafayette. Le film de 51 minutes se penche sur le phénomène de l'immersion française en Louisiane, qui depuis quelques décennies redonne des couleurs aux faits français dans la région. Pour Thomas Covin et M. Espinas, réalisateur et ancien enseignant en immersion française en Louisiane, l'objectif était de montrer l'envers du décor. En se basant sur les témoignages de nombreux acteurs du secteur francophone, tels que des enseignants, des élèves d'immersion, des hommes et femmes politiques, des historiens, d'anciens présidents du CODOFIL, autrement dit le Conseil pour le développement du français en Louisiane, et des sénateurs, les deux passionnés ont voulu mettre en avant tous ces acteurs anonymes comme Théo qui permettent aux Français de briller. Si la Louisiane s'en sort aussi bien, je vous rappelle que c'est un article écrit par Luca Pileri dans Le Franco de Calgary, donc si la Louisiane s'en sort aussi bien, c'est aussi grâce à sa riche histoire francophone. C'est par l'activisme de ses défenseurs que l'État a su renouer avec ses racines francophones multiples. Les Cajuns, ou Cadiens, ont fait un travail important, souligne le professeur d'histoire. Le sud-ouest de la Louisiane est devenu un pays acadien dès le milieu du XVIIIe siècle. Il y a eu aussi beaucoup de créoles et de caribéens francophones et des Français sont arrivés au XVIIe siècle. Même certaines tribus autochtones parlent français. Il y a une grande pluralité. La Louisiane, c'est l'une des rares régions en Amérique où le français est une langue d'héritage. Ça fait partie de la culture locale. Il y a une histoire familiale, on trouve souvent des grands-parents qui parlent encore français, et on peut relier la langue à la musique, à la nourriture et à l'histoire, observe Thomas Covin. Théo reprend donc le flambeau. En tant que l'un des seuls Louisianais à enseigner dans les programmes d'immersion de sa région natale, il est emblématique de ce renouveau et milite pour donner plus de poids à ses compatriotes dans l'enseignement de la langue de Molière. Mais malgré les efforts de certains habitants, comme Théo, la Louisiane a dû se tourner vers l'extérieur pour pallier le manque de ressources. Le film dévoile la réalité du terrain dans cet état du sud des États-Unis, où les Louisianais francophones ont réussi à sauver le français grâce aux communautés internationales, d'après le professeur et producteur. En effet, les programmes d'immersion locaux n'ont eu de choix que de recruter à l'international et ainsi, la plupart des professeurs d'immersion ne sont pas américains, mais africains, français, belges ou canadiens. C'est grâce à cette ouverture de la Louisiane à la francophonie internationale que le français a pu se stabiliser dans la région. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit aussi de préserver l'héritage ancestral des Cajuns, créoles et français. En étant diffusé dans plus de 40 salles aux États-Unis et au Canada, le documentaire suscite l'intérêt et engage le débat. Au Canada, on voit souvent des comparaisons entre la Louisiane et les provinces canadiennes, alors qu'aux États-Unis, on pose plutôt des questions sur le système éducatif et les moyens alloués, rapporte Thomas Covin. Dans le cadre de sa tournée au Canada, les alliances françaises d'Ottawa, Winnipeg, Victoria, Calgary et Vancouver ont pu projeter le film. Côté États-Unis, il a été diffusé dans les alliances de la Nouvelle-Orléans, Lafayette, Denver et Worcester, ainsi que dans des chambres de commerce et des écoles françaises en Nouvelle-Angleterre et chez plusieurs associations de professeurs de français et de parents d'élèves. En comparant la francophonie louisianaise à la francophonie canadienne ou albertaine en l'occurrence, on arrive à mieux cerner les enjeux, les défis et les solutions. Pour le producteur, le film permet ainsi de relier les communautés francophones d'Amérique du Nord qui sont souvent isolées, tout en faisant la promotion de l'immersion. On espère contribuer à la création d'un réseau d'échanges complète, le passionné. Le documentaire est mis gratuitement à la disposition des écoles, conseils scolaires, bibliothèques et autres associations intéressées. Alors si vous-même vous êtes intéressé d'abord à visionner, au moins peut-être la bande-annonce. C'est une adresse un petit peu compliquée, mais je suis convaincue qu'en allant sur Google et en faisant le choix de Théo, vous allez fatalement tomber sur non seulement la bande-annonce, mais peut-être même le documentaire en entier. Et sinon, eh bien, sachez qu'il existe une page Facebook. C'est le www.facebook.com, bien sûr, /choixdeTheo. Alors c'est vraiment très facile à trouver et je voudrais remercier Luca Pileri de m'avoir permis de pouvoir vous lire ce papier qui nous venait tout droit du franco.ca, donc à Calgary.
Je suis un petit gosse d'Ivoire franc, un chantier de Radigan. Et les gens qui parlent bien, on prendrait Hawinien. Alors moi j'ai décidé aussi de refranciser. Au lieu de tourner la baguette, on va parler à la française.
Au lieu de tourner la baguette, on va parler à la française.
Oh, c'est tout un job. Pardon, c'est toute une affaire. D'abord, il faut placer les lettres d'une autre manière. Tu peux pincer, là, tu peux. En tout cas. Pour changer prononciation, j'ai privé de la sondition. Faut des grandes arrachées, qu'avec les mouilles pitoués, j'ai eu de la misère, pareil avec les haies, pour qu'on se grasait. Pour la boue comme une fournaise, parler à la française.
Pour la boue comme une fournaise, pour parler à la française.
Le professeur, il dit tout haut, aptitudé, aptitudé. Personnellement, moi, ça me fait faire des grimaces, mais on pourrait peut-être faire un petit exercice facile. Comme petit pot de beurre de peanut craft. Quand t'as des petits pots de beurre de peanut craft riseras-tu? Je mets des petits pots de beurre de peanut craft riserai quand tous les petits pots de beurre de peanut craft sont des petits pots de beurre de peanut craft riseront. Mais comme tous les petits pots de beurre de peanut craft ne sont des petits pots de beurre de peanut craft riseront jamais, je ne mets des petits pots de beurre de peanut craft riserai jamais. Oh, on dit qu'on a des beaux folles, puis qu'on marque toutes nos paroles. Ça fait que moi, je dis pas beaucoup, même si que je dis pas du tout. Et du pique, c'est à soi, j'ai un beau vocabulaire. Des framboises, pas des framboises, c'est dans le beau dans la française.
Des framboises, pas des framboises, c'est dans le beau dans la française.
Même Marie, du goudan, il dit assisez-vous dans. Oh, pardon, mais. Seriez-vous capable de vous assire? Ah, non. De vous asseoir? Ah, non. Oh, je l'ai. Essayez-vous. Faites un effort méritoire pour promouvoir. Ce sera extraordinaire. Maintenant, s'il faisait à Paris, des Français seront surpris de voir un petit Canadien qui, pas comme les Parisiens, nous ont connu de la patience pour garder parler de la France. Mais on a le cœur à l'aise de parler la langue française.
Mais on a le cœur à l'aise de parler la langue française.
Quand on a bien chanté, on n'a plus qu'à tumulter.
La chanson de la langue française. J'aime assez ça, écoutez ça. Ça, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Bon, vous avez remarqué que votre animatrice était dans les patates tout à l'heure quand elle vous a dit qu'on partait pour l'île du Prince-Édouard. C'était faux à ce moment-là, on partait pour la Louisiane. Mais là, cette fois-ci, on part vraiment sur l'île du Prince-Édouard avec, oh, Anne aux pignons verts. Dieu sait que cette petite rousse en a touché bien du monde. Ben, figurez-vous qu'on annonce des travaux à l'île du Prince-Édouard, à la maison d'Anne aux pignons verts. D'abord, tiens, on se souvient de la petite Anne.
Sur le quai de la gare, Marilla et Matthew attendent l'orphelin qui les aidera sur leur ferme. C'est une routine aux yeux pétillants qui se présente, prénommée Anne. Anne est une jeune fille très intelligente, qui parle souvent en poésie et qui aime utiliser de grands mots. Elle s'émerveille face à la nature et à tous ses secrets. Et je vous promets, croyez-moi, que vous n'oublierez jamais cette histoire, l'histoire d'une petite fille de l'île du Prince-Édouard. Ce livre a été écrit par Lucie Maud Montgomery, et le personnage principal s'appelle Anne Shirley. Le plus grand classique canadien-anglais. Vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Salut et à bientôt, j'espère.
Eh bien, figurez-vous que le site de Green Gables, hein, c'est là qu'est située la maison de Anne au Pignon Vert, du moins celle qui a fait toute sa renommée. Eh bien, Jacinthe Laforêt, dans La Voix acadienne, nous dit que les visiteurs du populaire site de la maison Green Gables, la maison au Pignon Vert à Cavendish, dans l'île du Prince-Édouard, sont accueillis ces temps-ci par des roulottes de compagnies de construction. La deuxième phase du projet de réaménagement du site patrimonial est commencée. Elle comprend la construction d'un nouveau centre d'accueil où l'on trouvera une boutique, une billetterie, une aire d'orientation, des expositions et des toilettes. Des travaux sont également en cours pour réaménager le terrain de stationnement qui restera ouvert, de même que pour modifier les sentiers et les plantations. Pour l'instant, la maison en pignon vert paraît perdue dans l'immense projet de construction. Services publics et approvisionnement Canada a récemment attribué un contrat de construction d'une valeur de presque 6 millions à la société Williams, Murphy et McLeod. Les travaux s'inscrivent dans un projet de réaménagement qui va coûter 9,5 millions et qui va améliorer l'expérience du visiteur, nous dit-on, ainsi que les installations et l'accessibilité du site. Les dates et les heures d'ouverture seront inchangées tout au long de la saison 2018 et Parc Canada continuera de fournir services et programmes durant les travaux. On s'attend à ce que le tout soit achevé à l'automne 2018. La dernière phase commencera ensuite, soit des rénovations visant à améliorer l'accessibilité du site, de même que la remise à neuf de la boutique temporaire pour en faire une aire de restauration. La boutique restera ouverte dans la grange rénovée jusqu'au printemps 2019. Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Le National, animée pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Restez des nôtres. En seconde partie, on va parler de soccer parce que ça y est, c'est parti, la Coupe du Monde. On va aussi parler en dehors du sport, des personnes âgées et également d'entraide et de géogastronomie. À tout de suite. Le National, la suite, avec Clotilde Seille. Dites donc, ça vous dit quelque chose, la Coupe du Monde de soccer? Allez, en voiture.
On est venu danser, oublier que tout va mal. You're gonna feel the magic, the love is getting loud. On est venu chanter l'amour. Everyone's going crazy. Ce soir c'est le mondial.
ben dites non. J'espère que vous aimez bien ce rythme-là parce que vous risquez d'entendre beaucoup dans le mois qui vient, là, cette chanson-là qui est le thème du Mondial 2018 qui a commencé jeudi dernier en Russie. Bon, alors, tout ça pour vous dire que à Toronto, dans l'Express.ca, Toronto qui se relève difficilement, mais quand même de cette tempête qu'ils ont connue en milieu de semaine. Énormément de gens qui ont perdu l'électricité. Il y avait des images vraiment terribles. Arbres arrachés, enfin bon, vraiment. Gros vent, pluie diluvienne. Alors là, bon, c'est de l'histoire ancienne. Et là, il y a beaucoup de gens à Toronto qui, comme d'ailleurs partout au Canada, ont très envie de suivre la Coupe du Monde. Alors, où peut-on suivre la Coupe du Monde à Toronto? Voici quelques bonnes adresses grâce à Clément Crappet de l'Express.ca. Des établissements torontois diffusent la Coupe du Monde. C'est à l'heure canadienne que les fans de la planète football trépignent d'impatience à l'idée du lancement. Ça, c'est déjà fait, c'était donc jeudi dernier. Cet événement sportif, faut-il le rappeler, sans doute l'un des plus fédérateurs, permet de rassembler populations et nations le temps d'un mois de compétition et de porter un message qui va bien au-delà de l'aspect sportif, écrit le papier, car il sera également question de paix et de communion. L'équipe de l'Express vous propose quelques lieux donc qui vous permettront de suivre cette compétition, engageant, on nous le rappelle ici, 32 nations qui aspirent toutes à la victoire finale avec le rêve ultime de soulever le trophée aux ondulations dorées tant convoitées. Alors, en raison du décalage horaire avec la Russie, la plupart des matchs sont joués tôt le matin pour les Torontois. Et d'ailleurs, ce sera vrai pour toute la partie est canadienne. Mais ensuite, j'imagine que plus on s'en va vers l'ouest et plus tard seront présentés les matchs. Ou plus tôt encore? Je ne saurais jamais l'affaire des fuseaux horaires, mais en tout cas, surveillez bien dans votre coin de pays à quelle heure sont présentés les matchs. Et en principe, en ce moment, il y en a 3, voire 4 par jour. Ensuite, ça va diminuer, bien évidemment. Alors, pourquoi ne pas aller au Mr. Frenchie? Ça, c'est implanté au 675 rue Danforth. C'est depuis le mois d'août 2017 que Mr. Frenchie s'est spécialisé dans le taco lyonnais. Ça, c'est un sandwich à base de viande, sauce, fromage et frites, le tout enrobé d'une galette type tortilla. Youssef Boudou est le propriétaire des lieux. Il est arrivé il y a 7 ans à Toronto et il vit son rêve canadien avec ce bistrot. Et sachez que des formules petit-déjeuner seront proposées aux clients lorsque les matchs se dérouleront dans l'avant-midi. Autrement dit, il y en aura quasiment tous les matins. Il y a aussi The Football Factory. Les fans de ballon rond pourront se retrouver autour d'un bon verre pour supporter leur pays le temps d'un match. L'ambiance proposée par The Football Factory est propice aux événements d'envergure mondiale. Comme son nom l'indique, le bar est adepte de ce sport et est ainsi taillé pour l'occasion. Il s'est situé au 164 rue Bathurst. Ah, il y a un petit bar aussi qui s'appelle le Queen Street East, près de Leslie, aux allures de pub irlandais, qui diffusera aussi l'ensemble des matchs de la compétition dans une ambiance des plus festives. C'est le lieu de rendez-vous des supporters des Maple Leafs tout au long de l'année, imaginez-vous. Alors ce lieu se prête à merveille au rassemblement autour de matchs d'importance capitale. L'établissement à la gloire de la reine Elizabeth vous proposera diverses boissons désaltérantes indispensables les jours de match, à consommer bien évidemment avec modération. Et on a aussi, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, monsieur Henri? Oui, alors je peux vous parler du Ricarda. C'est un établissement spécialisé dans la restauration et la boulangerie qui aura un partenaire de taille dans l'optique de la diffusion des 2 derniers matchs du premier tour de l'équipe de France de football. En effet, c'est avec la Fédération tricolore de Toronto qu'un espace bar a été réservé pour l'événement et où a été négociée une offre spéciale sur les pâtisseries, viennoiseries et les boissons pour tous les supporters des Bleus. Nul besoin de vous faire un dessin pour vous dire que les places seront chères au 134 rue Peter, où le personnel, prêt à vous accueillir dans les meilleures conditions, aura du pain sur la planche. J'ai encore un peu de temps, allons-y avec The Right Wing Sports Pub. Comme son nom l'indique, il est sans doute fort probable que l'on puisse manger de savoureuses ailes de poulet, tout en profitant des nombreux rafraîchissements que vous propose cette enseigne. C'est une carte propice aux événements sportifs, c'est au 2497 Yonge Street qu'il faut vous rendre. Et puis, il y a aussi, tiens, pourquoi pas, le Cock of the Walk. Ça, c'est une absinthrie. C'est situé au 488 rue College. C'est un endroit qui a fait ses preuves depuis bientôt 2 ans, spécialisé dans cette boisson alcoolisée à base d'anis. C'est tout ce qui fait le charme et l'authenticité de l'établissement qui se démarque des bars traditionnels. Sébastien Daouze en est le propriétaire de ce lieu qu'il a décidé à l'occasion, et c'est lui qui a décidé à l'occasion de la Coupe du Monde de football de diffuser les matchs de plusieurs nations, notamment celles de la France, de la Belgique, de la Suisse et de l'Allemagne. Les rencontres seront diffusées à l'exception des matchs avant 11h du matin. Voilà, il ne me reste plus que le Ballroom Ball. Ça, c'est une ambiance chaleureuse et familiale au cœur de Toronto. C'est un lieu de divertissement pour les petits et les grands avec plein de plats à déguster, plein de rafraîchissements. Tout ça sur les pistes du 145 rue John.
C'est-tu beau? Est-ce que la fierté monte en vous? Hein? Et c'est trouvé, hein? Je chante les refrains, les couplets, parce que c'est moi l'artiste. Et vous prenez, quand je vous fais signe, vous chantez. J'espère qu'il y a des très belles voix. Il y en a beaucoup de belles voix de famille, là, tu sais, des ma tante puis des mon oncle qui chantent. Exprimez-vous. Je commence. On a tous besoin d'une idole. Dans la vie, faut avoir un but. Il y en a qui se font raser la peau. Cherche une terre, ceux de la campagne, un bungalow. Ma tante qui rêve d'être millionnaire se ruine en achetant de la loto. Dans la vie, ça prend un drapeau. À vous, les cœurs.
Pour moi, le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'aime à mort, avec une bière. Voir le sport à télévision.
Notre belle jeunesse est énergique et pratique le sport amateur. 100 000 à l'heure en gros bicycle. Tout le monde court après le bonheur. Dans la vie, ça prend un bon cœur. Le cœur.
Pourquoi les
Oh Clémence, Clémence, comme disait Benabar dans une de ses chansons, on chantait faux, mais on chantait fort. Clémence. Alors, puisqu'on parle de sport et de football, vous avez peut-être entendu la nouvelle, mais le mondial, celui que l'on célèbre tant depuis quelques jours, sera célébré aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. Et d'après un article paru suite à un reportage sur ici radio-canada.ca en Alberta, eh bien, Edmonton serait pas mal la ville parfaite pour recevoir un ou plusieurs matchs. Le maire d'Edmonton, Don Iveson, s'est réjoui quand il a appris que le Canada, les États-Unis et le Mexique allaient accueillir conjointement la Coupe du monde de soccer en 2026. Selon lui, sa ville est parfaite pour cet événement, sauf que C'est un texte de Patrick Henry. Quand vient le temps de promouvoir Edmonton, personne n'est meilleur que son maire Don Iveson. Selon lui, le stade du Commonwealth est le meilleur stade du pays pour accueillir des matchs de soccer. Peut-être même le meilleur stade en Amérique du Nord. Il mentionne aussi que chaque fois que la capitale albertaine a été visitée par un événement de la FIFA, ça a été un succès. Il ajoute que la FIFA se rappelle très bien chacun de ces événements. Il y a eu la Coupe du monde féminine chez les moins de 19 ans en 2002, la Coupe du monde masculine chez les moins de 20 ans en 2007, la Coupe du monde féminine chez les moins de 20 ans en 2014, la Coupe du monde féminine en 2015. Il ajoute que la FIFA se rappelle très très bien le succès qu'a connu Edmonton et que c'est un gros avantage. La capitale albertaine fait partie de la liste des 23 villes qui souhaitent accueillir au moins un match. Seulement 16 seront retenues, on le rappelle, dont au moins une des trois villes canadiennes. Le défi, ni Montréal, ni Toronto. Pour l'instant, le principal défi d'Edmonton n'est pas de devancer Montréal ou Toronto. Pour espérer accueillir au moins 3 ou 4 rencontres au stade du Commonwealth, la ville devra compter sur l'appui de la province, ce qui n'est pas encore chose faite. Selon le maire, le gouvernement provincial devra s'engager à investir un peu plus de 10 millions de dollars pour soutenir Edmonton dans ses démarches auprès de la FIFA. Il ajoute que c'est bien peu d'argent si on compare aux requêtes d'autres événements sportifs. Il fait ici allusion à la possible candidature de Calgary pour l'obtention des Jeux olympiques d'hiver la même année, en 2026. Le ministre responsable des sports, Ricardo Miranda, a réagi par voie de communiqué. Il a mentionné qu'il attendait un plan plus détaillé de la part d'Edmonton avant de prendre une décision sur une éventuelle participation de la province à l'aventure de la Coupe du Monde. Dans le dossier de candidature des trois pays, on promet des revenus de 14 milliards de dollars. Pour une ville comme Edmonton, l'organisation de 3 ou 4 rencontres pourrait générer un impact économique de l'ordre de 170 millions. Dès leur réveil mercredi matin, Yasmine Orl et Alan Zebi ont eu le même réflexe. Ils ont consulté leur compte Twitter pour constater que le Canada allait accueillir des matchs de la Coupe du Monde. C'est super excitant, ça ne semble pas réel encore. Pour celle qui entreprendra une troisième saison au sein de la première division de la NCAA en août, il ne fait aucun doute qu'Edmonton devrait figurer sur la liste des 16 villes choisies. Elle croit que la qualité du stade, l'histoire du soccer international à Edmonton et le fait qu'il y a peu de villes de l'Ouest parmi les 23 candidates sont des atouts pour la capitale albertaine. S'il ne joue pas au sein de la formation canadienne qui prendra part à la Coupe du Monde, Alan Zebi entend voyager pour voir le plus de matchs possible. « Je veux voir tous les matchs à Edmonton, mais je vais me déplacer dans les autres villes canadiennes et je pense bien que j'irai voir des affrontements aux États-Unis. J'aurai 33 ans alors, qui sait si je connais du succès au cours des prochaines années, peut-être même !» a dit ce monsieur Zebi que je pourrais porter les couleurs du Canada.
Je l'ai fabriqué, un tout petit baiser. Je l'ai fabriqué, un tout petit baiser par moi. J'y ai mis du charme, un brin de tendresse, un soupçon de séduction. Pourtant, je ne vais pas te séduire, ce n'est pas là mon intention. Oh, et oui, une toute petite question. M'aimes-tu? Me veux-tu? M'en veux-tu? Attends, laisse faire. Plutôt que de courir le risque d'être chaviré, c'est moi qui craque, c'est moi qui tranche, c'est moi qui déclenche la tempête. Je hurle. Quand on se
mâchoire. M'aimes-tu? Me veux-tu? M'en veux-tu? Même si ça me déroute de te voir dans les bars, même si ça me dégoûte de constater ma propre faiblesse, je me mens en me disant
elle s'appelle Ariane Marie Lemire, elle vient d'Alberta. On s'en va en Saskatchewan maintenant dans l'eauvive.ca avec un papier qui s'intitule « Vers une politique provinciale pour les aînés, la Saskatchewan qui serait bonne dernière au pays ». Lors de son rassemblement annuel tenu les 31 mai et 1er juin dernier à Saskatoon, les membres de la Fédération des aînés, la FAF, se sont penchés sur le développement d'une politique provinciale sur le vieillissement. La Saskatchewan accuse en effet un retard important dans ce domaine. Monsieur André Nogue, membre du conseil d'administration du Saskatchewan Seniors Mechanism, la SSM, résume bien la situation en affirmant que d'un bout à l'autre du pays, la majorité des provinces ont un ministère ou une division ou un département au sein d'un ministère ou encore un secrétariat consacré aux aînés. D'autres provinces n'ont pas de structure, mais se sont dotées d'un plan d'action. En Saskatchewan, nous n'avons ni la structure, ni le plan d'action. Le SSM est un organisme provincial qui regroupe 18 associations de retraités et d'aînés, dont la FAF, qui a amorcé une consultation provinciale qui vise à produire, au printemps 2019, un document qui pourra servir de base à l'élaboration d'une politique provinciale pour les aînés de la province. Dans le cadre de cette consultation financée par le programme fédéral Nouveaux Horizons, M. Nogue a profité de la rencontre de la FAF pour animer un atelier visant à sonder les besoins des aînés francophones. Pour la directrice de la FAF, Agathe Gaulin, l'absence d'une telle politique ralentit grandement la progression des dossiers. Puisque la Saskatchewan n'a pas de politique sur le vieillissement, elle n'a pas de ministre responsable ou de haut fonctionnaire responsable des aînés. Alors on prend du recul et du retard dans plein de dossiers, car il n'y a personne au niveau du gouvernement qui parle au nom de la population vieillissante. En ce moment, la liaison entre les aînés saskatchewanais et l'appareil gouvernemental repose sur une seule personne qui travaille au sein du ministère de la Santé. Ce faible lien restreint la portée des actions destinées à desservir cette population. Selon M. Nogue, le dossier des aînés dépasse largement les enjeux de société. C'est sûr que plus tu vieillis, plus tu as des problèmes de santé. Mais il y a aussi des problèmes de logement, de transport, de finances. Tu as aussi toute la question de l'isolement social. Depuis 5 ans, André Nogue représente les intérêts de la communauté fransaskoise sur le conseil d'administration du SSM. À compter de cette année, il aura du renfort avec l'élection de l'ancienne présidente de la FAF, Annette Labelle, sur le conseil d'administration de l'organisme. Les aînés fransaskois seront donc bien représentés au SSM pendant cette période cruciale où seront jetées les bases d'une politique pour les aînés. Le besoin de services en français est un des éléments qui est ressorti lors de la consultation auprès des membres de la FAF. Ça va sûrement faire son chemin dans la région finale de conclure, M. Nogue. « dans le moniteuracadien.com, j'ai trouvé ce papier qui nous dit que pour la 15e édition du Relais pour la vie de Chédiac, on a réussi à amasser la somme de 35 600 $. La 15e édition du Relais pour la vie de Chédiac a commencé samedi dernier vers 16h avec le souper des survivants, survivantes. Un savoureux fricot préparé par le cuisinier Jean-Guy et son équipe de bénévoles. Le père Alphonse Richard, lui-même d'ailleurs un survivant du cancer, a béni le repas. Précisons que le comité du Relais de cette année avec ses 8 équipes a amassé donc un peu plus de 35 600 $. En raison de l'ampleur de l'événement, il y avait une grosse table d'honneur au souper et on avait invité tous les présidents des anciennes éditions du Relais. Le maire de la ville de Chédiac, Jacques Leblanc, a souligné le courage de ces personnes, survivants, survivantes, ainsi que la lueur d'espoir qui est maintenant possible grâce aux nombreuses recherches qui ont permis un avancement pour les traitements. Monsieur Leblanc a également mentionné les nombreuses contributions de la population en insistant sur les résultats positifs de la guérison. Le maire a terminé en lançant un message aux survivants de vivre chaque jour pleinement et d'en profiter, car on ne sait pas ce que demain amènera. Par la suite, on a pu entendre le témoignage d'Elisa Leblanc. Cette ancienne enseignante était émue, elle qui a enseigné pendant 32 ans à l'école Louis-J. Robichaud. Elle a été diagnostiquée avec un cancer des deux seins en 2011. Ce fut un gros choc pour elle, car on se pense toujours à l'abri d'une nouvelle comme ça. Elle se souvient que son fils ne comprenait pas pourquoi elle avait été diagnostiquée avec un cancer, car elle mangeait très bien, elle faisait attention à sa santé, ne fumait pas, etc. Et Madame Leblanc a répondu « Et pourquoi pas moi ?» La survivante a précisé que la maladie choisit qui elle veut, que ce soit un jeune, un vieillard, un homme, une femme, etc. Elle en a profité aussi pour souligner le service professionnel des deux hôpitaux, ainsi que leur accueil très chaleureux. Elle a fait un parallèle un peu humoristique, affirmant que si on pouvait inventer une voiture qui se conduisait toute seule, qu'on devrait pouvoir aussi trouver un remède à la maladie. Et nous voici pour finir dans l'aquilon.nt.ca, l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien. Denis Laure nous parle de la géogastronomie qui sera bien servie à Alain Saint-Cyr, une école. C'est à la convergence de l'art culinaire et de la géographie que nous convie le chef Étienne Croteau. Samedi le 16 juin, à l'occasion du souper gala francophonie du monde. Le divertissement et l'engagement communautaire seront aussi au menu. En fait, c'était le 16 juin dernier. Non, c'est ça, ce sera samedi qui vient, donc demain, pardon. Le divertissement et l'engagement communautaire, pardon, j'étais un petit peu perdue dans mon calendrier, seront aussi au menu puisque les fonds récoltés serviront à financer les nouveaux locaux de l'école Alain Saint-Cyr. En 5 services, c'est autant de pays que les convives auront l'occasion de déguster, en plus de 4 pays francophones, soit le Canada, le Congo, le Sénégal et la France. L'Ukraine est aussi représentée avec l'emblématique bortsch qu'on servira en entrée. La soupe sera suivie par un madeshkou, ça c'est un plat congolais constitué pour l'essentiel de haricots blancs et de pâtes de porc saupoudrées d'herbes et d'ail et de cumin. Il y aura aussi le tiebou d'aîné, qui est un plat sénégalais que le chef Croteau va cuisiner pour la première fois, un plat à base de riz au poisson et de tamarin. C'est un banquet qui prétend à la représentation de la francophonie qui ne saurait faire l'économie de la France, qui occupe une place de prédilection sur le podium de la gastronomie internationale et dont le registre gargantuesque de recettes pourrait fournir les repas d'un an sans que le même mets soit resservi deux fois. Le 16 juin, donc demain, cousin du coq gaulois, ce sera un poulet chasseur au vin blanc, tomates et champignons qui régalera les tablés. Étienne Croteau présentera brièvement les plats qui seront proposés et d'autres convives parleront des pays d'où ceux-ci originent. La consultante Sylvie Franqueur annonce aussi d'autres présentations surprises, des jeux et un tour guidé du nouveau gymnase et de ses locaux. Le repas se conclura par un gâteau aux fèves de Tonka avec butterscotch et noix de Grenoble à l'érable. « Et bon appétit, mes amis. On va penser à vous. C'était Clotilde Seille qui vous présentait Le National sur les ondes de Canal M. Merci beaucoup à Mathieu Tessier. Merci à vous d'être là chaque semaine. À la semaine prochaine.